Donc le thème de cette séance et donc de cette semaine et même des 2 semaines qui vont venir en fait est le thème de l'impermanence. C'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu, c'est un mot français mais qu'on n'utilise pas beaucoup dans notre vocabulaire courant et qui veut dire quelque chose qui est un peu, on a l'impression quand on en parle qu'on enfonce un peu des portes ouvertes parce que ça veut dire en fait que rien ne dure et on sait tous en fait que rien ne dure. Mais en fait, c'est Jung, je pense, qui disait qu'un des grands mystères de l'homme, c'est que bien qu'il sache que rien ne dure, il vit comme s'il était éternel. Et c'est vrai, en fait, que surtout on le voit, là, je vois mon fils, par exemple, c'est l'éternité, il a l'éternité, il vit comme s'il allait vivre tout le temps, enfin, il y a absolument aucune conscience, en fait, de la finitude. Et c'est quelque chose qui vient en vieillissant et avec l'âge, mais même parfois, à mon avis, jusqu'au dernier souffle, en fait, qui n'est jamais vraiment intégré et compris, et comme si, même jusqu'au dernier moment, on vivait comme si ça n'allait jamais s'arrêter, au niveau sur l'espace d'une vie. Mais ici, en fait, on ne va pas aller trop dans cette direction de la conscience de la mort, qui est un thème très très important aussi dans la pratique de la méditation, mais plutôt de la conscience de la mort de chaque moment, en fait. Parce que c'est là aussi, il y a chaque moment a un début, une durée et une fin. Tout ce qu'on perçoit, toutes nos perceptions, toutes nos expériences, tout ce qu'on a vécu jusque maintenant, tout a un début, une durée et une fin. Ça fait partie de la nature même de l'expérience. Donc c'est pas tout le monde qui hoche la tête, ben oui, c'est une évidence même. Mais il y a vraiment une nécessité, et dans les discours du Bouddha, c'est quelque chose qui est revenu souvent, il y a vraiment une nécessité de ramener ça plus au front de notre conscience. Parce que bien qu'on le sache, on ne le vit pas. Et c'est étonnant, mais bien qu'on le sache, c'est pas du tout intégré. Et en fait, souvent, dans tout un tas de situations, on s'affole et on s'emballe comme si ça allait durer. Et si on remarque, et si on aborde cette situation en sachant que ça ne va pas durer, hop, ça change en fait la manière dont on relationne un événement. Mais intuitivement, on ne fait pas ça. Intuitivement, on vit ce moment présent comme s'il était une éternité. On ne se le dit pas, ce n'est pas des processus conscients, mais c'est comme ça qu'on le vit. Et souvent, c'est problématique en fait. C'est ça qu'on va un petit peu explorer. Ce que je trouve très intéressant dans cette approche, c'est une approche qui est très vaste, c'est que en fait, on va ramener la conscience du temps dans le moment présent. Et ça, c'est énorme parce que souvent, en fait, quand on pense à la pleine conscience, je ne sais pas ce que vous avez comme information, si vous avez déjà un peu exploré la pleine conscience en dehors de ce cycle, mais on pense à la pleine conscience, parfois on peut le définir comme une conscience moment après moment de ce qui est là sans rien ajouter. Sans y ajouter quoi que ce soit, la conscience nue, juste les choses telles qu'elles sont. Hein, on va entendre quelque chose comme ça. Et ça, c'est des premiers, c'est ce qu'on a fait beaucoup jusque maintenant. J'ai envie de dire les premiers pas dans la pleine conscience. Mais la pleine conscience, elle va aller plus loin que ça, parce que parfois, les choses qui sont là dépendent de la manière dont on les regarde. C'est un peu ce qu'on disait. Hein. C'est-à-dire qu'une chose qui est là, elle n'est pas là indépendamment de notre regard. Et ce qu'il y a dans notre regard, la manière dont on relationne à cette chose a un impact sur la manière dont on vit cette chose. Donc on ne peut pas dire voir les choses telles qu'elles sont, à un moment ça devient limité. On est obligé en fait de voir de quelle manière on regarde cette chose et pourquoi elle est comme elle est. Alors ça paraît un peu compliqué, mais je vais essayer de déballer ça. Prenons une pleine conscience simple, la pleine conscience telle que, et d'ailleurs telle qu'on en entend souvent parler en fait, on entend souvent parler de la pleine conscience comme ne rien rajouter à l'expérience. Et on comprend que quand on est, par exemple, on est à table, et c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire, si on peut juste goûter chaque bouchée, et plutôt que d'être parti dans d'autres histoires, on va faire beaucoup plus l'expérience de ce qu'on est en train de manger. Il y a eu des études qui montrent que c'est bien meilleur pour la digestion, c'est la pleine conscience de ce qu'on mange et la mastication consciente vont soigner les problèmes d'anorexie, de boulimie et tout un tas d'assimilation et tout ça. Donc c'est vraiment cette pleine conscience des choses telles qu'elles sont, c'est un axe très très important. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et c'est simple à comprendre, en fait, avec cet exemple de quand on prend un petit enfant et qu'il a faim, il a une sensation physique de faim et c'est l'horreur. La pleine conscience de son moment est très très difficile à vivre. Et en tant que parent, le rôle, ça va être de lui dire, on va bientôt manger, le repas arrive. Donc on lui dit en fait ça ne va pas durer. Cette sensation-là, elle est impermanente, on dirait dans le bouddhisme. Ça ne va pas durer. On lui fait prendre conscience que cette sensation qu'il est en train de vivre n'est pas permanente. On lui dit mais ça va, on va bientôt manger, tu vas voir, on va bientôt manger. Et le fait de savoir et d'être capable de comprendre que ça va s'arrêter va changer la manière dont il vit cette sensation physique de faim. Donc c'est ce qu'on apprend en fait. On a appris quand on était petit, on a appris la notion du temps, parce que la permanence est en lien avec la notion du temps. Et on a appris la notion du temps parce que cette notion du temps, on dit souvent qu'elle nous enferme, mais c'est vrai, mais elle nous libère aussi. Elle nous libère, elle nous permet de donner une perspective sur ce qui se passe. Mais là, en fait, ce qu'on dit à l'enfant, c'est quelque part de vivre cette sensation de faim avec la conscience de la sensation, mélangé à une manière de la voir, qui elle est un concept. Parce que la permanence ou le temps, c'est des concepts. On ne perçoit pas le temps avec les cinq sens. On le conçoit le temps. Et d'ailleurs, c'est un des concepts les plus difficiles à acquérir. Et on dit que c'est vers l'âge de raison, vers les 7 ans, que les enfants commencent à avoir un petit peu le sens du temps. Avant, ça ne veut rien dire, plus tard. Ça ne veut rien dire du tout. Et c'est vraiment un concept qui est compliqué à apprendre. Mais ce concept-là, après, quand on le manie bien, on peut endurer des situations difficiles. Parce qu'on sait qu'elles ont une fin, ça nous permet en fait de vivre quelque chose d'une façon assez sereine, parce qu'on sait que ça va s'arrêter. Et c'est ça la conscience de la permanence, et c'est ça qu'on apprend, qu'on a appris dans notre éducation jusqu'à une certaine mesure, mais on n'a pas été plus loin. Et la pratique de la pleine conscience, la recherche dans le cadre du bouddhisme, nous pousse à aller beaucoup plus loin dans le fait de ramener cette conscience de la finitude, du fait que chaque chose s'arrête dans notre quotidien, de vivre avec cette conscience. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes à table et vous avez une bonne petite mousse au chocolat, si vous aimez ça, ou un bon verre de vin, et là, donc, on sait tous que si on est perdu dans nos pensées, on peut finir notre verre de vin et puis à un moment voir notre verre de vin qui est fini et se demander qui l'a bu. Même pas se rappeler que c'est nous qui l'avons bu tellement on était parti ailleurs. Ou la mousse au chocolat est finie et on n'a rien goûté du tout. On ne sait pas, on n'a pas vécu cette expérience. Donc, la pleine conscience veut que, plutôt que de rester perdu dans nos pensées, eh ben, on va revenir à la sensation du chocolat dans la bouche ou au goût de chaque goulet de verre de vin. Mais on sait que c'est difficile. On sait que nos histoires, elles nous reprennent et tout ça. Et que du coup, on peut quand même encore en boire quelques-unes des goulets de verre de vin sans être conscient. Mais ce qu'il y a, c'est que si à ce moment-là, on se rappelle que cette mousse au chocolat, elle est pas infinie, c'est un moment qui, à un moment, va s'arrêter. C'est une expérience temporaire. C'est là, si on ne la goûte pas maintenant, on ne pourra plus la goûter après parce qu'on aura tout mangé. Si on prend conscience en fait qu'on a vraiment envie de la goûter et qu'on sait que c'est une expérience qui ne va pas durer, à ce moment-là, ça devient plus important que les histoires qui tournent dans notre tête. On a ramené en avant, on a changé l'ordre d'importance des choses. On s'est dit ça, c'est plus important. Ou on a un ami qui nous visite, quelqu'un qu'on ne voit peut-être pas souvent, mais en même temps, on a tout le temps tout un tas de choses à faire et tout ça. Et là, si on prend conscience qu'en fait, cet ami, on a là 1 heure avec lui, et puis il va partir, si vraiment on a la conscience de ça, on va être plus à même de lâcher tout ce qu'on a à faire ou tout ce qui nous préoccupe, que si il arrive et qu'on n'a pas vraiment cette conscience en fait que ça va vite passer. Pareil, moi je me rappelle quand j'ai eu mon fils, il y a plein de gens qui très sagement m'ont dit, profitez-en bien parce que ça passe vite. Et vraiment, je l'ai entendu ça. Et vraiment, j'ai fait tout ce que je pouvais, je fais toujours tout ce que je peux pour vraiment en profiter. C'est-à-dire que chaque moment que j'ai avec lui, je sais que c'est le dernier comme ça. Et je le vois comme ce moment-là, je ne l'aurai plus après. Et c'est vrai, il change à une vitesse incroyable, il est beaucoup plus grand que moi maintenant, et il était tout petit. Et puis nos activités changent, nos interactions changent, tout change en fait, et je n'ai plus déjà les moments que j'avais avant, et je sais que ça va continuer de changer, et puis je sais qu'il va partir, et je vis avec ce savoir. Et bizarrement, ça ne crée pas du tout ce que parfois on pourrait anticiper comme étant une tristesse. De se dire, oh, ça va être fini, je vais perdre mon. Mais non, en fait, ça fait que chaque moment est vraiment plein. Je vis vraiment chaque moment que j'ai avec lui. Ou un repas en famille, c'est la même chose. Je sais qu'à un moment, on n'aura plus les repas en famille. Chaque moment en famille, je vis avec ça, en fait. Avec le fait que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Et ce n'est pas du tout ça ne va pas durer qui est anxiogène. Au contraire, ça ne va pas durer qui fait luire l'aspect précieux de ce moment, qui le rend luisant, ce moment, qui le rend brillant, en fait. Et c'est cet esprit-là, en fait, qui est important d'acquérir. Parce que c'est ça, c'est de voir combien, en fait, ces moments-là sont importants, qui nous permettent de lâcher prise sur ce qui, d'habitude, nous préoccupe. Et dans l'autre sens aussi, quand on a des moments difficiles, de savoir que ça ne va pas durer nous permet de mieux les endurer. Si on est impatient, par exemple, et puis qu'on arrive, je ne sais pas, à la banque et qu'il y a une file, et ben, si on est préoccupé par tout ce qu'on a encore à faire et tout ça, et que ça tombe mal qu'il y ait une file, là, ça va être probablement assez difficile à vivre. Mais si on sait que ce moment est un moment déterminé, qui ne va pas durer, à ce moment-là, peut-être que ça va changer notre état d'esprit et qu'on va peut-être même se rappeler qu'on peut revenir à la respiration et vivre un moment en présence avec soi-même et du coup ne pas se laisser prendre par l'agitation. Ou si on a un moment où on est malade, le fait de savoir en fait que bah, à un moment où on est malade, on sait que ça ne dure pas et automatiquement on va être moins affecté psychologiquement par ce moment-là. On va pouvoir en fait mieux l'accepter. Donc dans le bouddhisme, il y en a quelques-uns, des concepts comme ça qui sont là pour permettre de lâcher prise. Parce que c'est vraiment pour nous permettre de lâcher prise. Il y a quelque chose qui a saisi notre attention et qui nous empêche de vivre un moment qu'on a envie de vivre. Et si on se rappelle que ce moment, en fait, un moment, il sera plus là, à ce moment, ça fait ah ouais. Et hop, et du coup, on rentre dedans, alors qu'on n'arrivait pas à rentrer dedans. Donc la conscience de l'impermanence permet de lâcher prise sur ce qui a saisi notre attention. Ça réorganise l'ordre des priorités, en fait, dans notre vie. De la même, la conscience de la mort, il y a des pratiques dans le bouddhisme, il y a des méditations dans lesquelles, c'est des méditations très longues en plus, et très guidées, dans lesquelles on va imaginer son corps sous terre, mangé par les vers avec les différentes couches, tous les tendons, tout est décrit. Hein. Et il faut tout essayer de visualiser. C'est une manière, en fait, de lâcher prise sur l'identité pour passer à un sens d'identité plus vaste, notamment. Il va y avoir Voilà, il y a un enseignant de méditation qui a fondé une technique et écrit un livre qui, je crois que ça s'appelle One Year to Live, un an à vivre, et dans lequel, en fait, sur 365 jours, vous devez faire tout comme si c'était la dernière fois. Les gens que vous voyez, les choses qui ne sont pas réglées, tout, et vivre tout en fait comme si c'était la dernière fois. Et ça rend extrêmement vivant. En fait, ça rend extrêmement vivant. Moi, je me rappelle avoir vécu ça aussi très fort quand je partais pour des longs voyages. Je partais, mais je suis même une fois parti sans savoir si j'allais revenir. J'étais vraiment, je voulais me laisser cette possibilité. Je me rappelle que chaque personne que je voyais, c'était super important en fait. Alors, c'est pas peut-être pas possible de vivre avec une telle intensité tout le temps, hein? Faut quand même bien fonctionner aussi, mais c'est de l'ordre de ça en fait. C'est de l'ordre de vivre un peu plus cette importance parce qu'au final, c'est vrai. C'est vrai que tout notre monde, un jour ou l'autre, va disparaître au moment où nous on va disparaître. Hein? Donc de vivre chaque moment avec intensité plutôt que de le vivre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on le vit avec une certaine habitude. L'habitude solidifie comme si les choses étaient, c'est comme ça quoi. On se lève le matin, c'est comme ça, et on se lève le lendemain matin, c'est comme ça. Et en fait, ça s'est solidifié. Et ça permet de désolidifier et de rendre chaque moment, de lui rendre un petit peu sa magie, de réenchanter le monde, en fait, de lui rendre son instantanéité. On vit les choses d'une façon beaucoup plus par elle-même, en elle-même, dans ce moment, plutôt que la continuité. On voit son conjoint qui rentre, eh ben c'est pas juste mon conjoint qui rentre et ça fait 20 ans que je suis avec ces telles personnes qui rentrent, comme si c'était une solidité. C'est un moment qui est vu pour lui-même à ce moment-là. Donc c'est un peu dans ces directions-là que la compréhension de la permanence et les pratiques pour voir la permanence, pour se rendre compte de la permanence et pour les intégrer dans notre vie. Voilà, c'est dans cette direction-là que ça va, dans une direction de lâcher prise sur ce qui d'habitude nous préoccupe, et du coup d'une plus grande liberté, et de pouvoir vraiment profiter mieux de ce qu'on aime, et être plus à l'aise avec ce qui est plus difficile. Dans la méditation, dans la pratique de la méditation, c'est une pratique là, que moi j'ai intégrée depuis 5-6 ans, cette manière de pratiquer. Quand vous allez dans les cercles de pleine conscience ou dans le bouddhisme, c'est un thème très souvent abordé là, la permanence. C'est un peu le meilleur rapport qualité-prix du dharma, je pense. Parce que c'est facile à comprendre. Alors qu'il y a des thèmes qui permettent un lâcher prise énorme, beaucoup plus encore que la permanence, mais qui sont très difficiles à comprendre. Comme notamment, si vous avez déjà entendu parler du non-soi dans le bouddhisme, le non-soi est vraiment, ou la vacuité, sont des thèmes, ça nous laisse un petit peu. C'est trop immense à comprendre et on ne sait même pas par où le prendre. Mais bon, la permanence, c'est assez facile. Vous voyez, on le comprend tous directement. C'est juste, la question est de savoir l'intégrer plus. Mais la compréhension est facile. Et donc moi, par contre, ce qui est moins souvent proposé, c'est des méditations spécifiquement qui permettent de faire l'expérience plus de la permanence. Ça, c'est moins souvent proposé. Et de voir la permanence. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on va faire, c'est que notre objet de méditation, ça ne va pas être la respiration, ça ne va pas être les sons, ça ne va pas être les sensations physiques, ça ne va pas être l'attention ouverte, ça va être une attention portée au fait que tout change. Une attention portée au fait que quelque chose démarre, dure et s'arrête. Et en fait, on va. Parce que, comme disait Jung, on le sait, mais on ne vit pas, on ne l'a pas intégré, on ne vit pas avec cette conscience. Et bien, pour faire le lien. Pour intégrer ce savoir qu'on a, mais cette connaissance qu'on a, mais qui n'est pas visiblement intégrée, pour l'intégrer dans la pratique de la méditation, on peut le faire parce qu'on l'observe directement. On prend le temps de voir que quelque chose démarre, continue et s'arrête. Et peu à peu, on va acquérir une sensibilité à ça. Par exemple, on est en méditation et on a une douleur. En général, quand on a une douleur dans le dos, quelque chose comme ça, on a une sensation intuitive que ça va être là tout le temps. Même si on ne se le dit pas, ce n'est pas une pensée, c'est une sensation intuitive. C'est comme si ça allait être là tout le temps. Et à un moment, elle n'est plus là. Eh bien, ça, on va essayer de le remarquer plus. On va essayer de remarquer plus, en fait, que tout a un début, une durée et une fin. Et dans notre expérience de la méditation, ce qu'on va observer, c'est une pensée, de la distraction, et puis hop, un moment, hop, la conscience revient. Cette période de distraction est finie. Elle a eu son temps. Il va y avoir une conscience du corps, à un moment, il va y avoir un truc dans le corps, et puis hop, cette sensation, elle va changer, par exemple. Ou à un moment, notre conscience va aller ailleurs. Et du coup, elle n'est plus présente dans notre expérience. Il va y avoir une voiture qui passe, on l'entend arriver, hop, elle est partie. Et là, quand il y a quelque chose, on va l'écouter en se disant, tiens, il s'en va. Ou de voir le moment où il s'en va. Sensation physique, tout ce qui est perceptible, en fait, on va remarquer que c'est un début, une durée et une fin. Ça va être ça l'objet de notre méditation. Un des grands avantages, c'est que quand on sait que quelque chose va s'arrêter, on a moins tendance à le saisir. On a moins tendance à s'y attacher. Donc on va plus être à même de laisser partir. On va avoir cette image toujours qui est très connue de laisser passer les nuages dans le ciel. Eh ben, le truc, c'est que souvent, ce n'est pas des nuages, c'est des pensées qui nous attrapent ou c'est des choses qui sont importantes pour nous. Mais si on sait en fait qu'elles sont impermanentes, et si on les regarde avec le savoir qu'elles sont impermanentes, elles ont moins de prise sur nous. Elles vont moins prendre notre attention. Et du coup, il va y avoir moins ce mouvement de aller vers ceci, aller vers cela. Oh, je voudrais que ceci s'arrête. Ça aussi, c'est de la saisie, hein. Je voudrais que ceci s'arrête. Il y a une douleur dans le dos, par exemple, et genre, oh, je voudrais qu'elle s'arrête. C'est pas possible de méditer tant qu'il y a cette douleur dans le dos et tout ça. Ça aussi, c'est de la saisie. Oui, c'est figer quelque chose. Et là, on voit s'il y a une douleur dans le dos. On va regarder, on va l'observer en sachant qu'elle ne va pas durer. Cette conscience de la permanence, pour qui la pratique, elle va se décliner dans tous les endroits de notre vie. Et elle va amener en fait de la fluidité et de la légèreté. Elle va amener de la légèreté dans la manière dont on relationne nos événements. On peut pleinement profiter sans pour autant vouloir trop faire durer. On peut avoir des bons moments sans se sentir tout le temps obligé de les reproduire, par exemple. Ce qui en général est assez catastrophique. Si par exemple on revient sur le rain, certains d'entre vous disaient que le rain avait été bien utile, eh bien le fait d'avoir conscience qu'une émotion présente ne va pas durer va nous permettre plus facilement d'avoir une relation un peu légère avec elle. Sinon on a l'impression quelque part qu'on est comme ça. Il y a de la tristesse et on est la tristesse, ma vie ça a toujours été comme ça. On voit notre vie à travers comme des lunettes colorées de cette émotion-là. Et en fait, l'histoire de notre vie change au fur et à mesure des émotions qui sont présentes dans le moment. Si on est amoureux et que tout est, on a l'impression quelque part que ça a toujours plus ou moins bien été notre vie. Et puis si on a un gros coup dur, on a quelque part intuitivement à nouveau l'impression notre passé change au fur et à mesure de ce qu'on vit dans le présent. La manière dont on le regarde, hein, on disait la manière dont on relationne à quelque chose et dont on perçoit quelque chose. A un impact sur cette chose. Et donc notre passé, en fait, change au fur et à mesure des émotions qui nous habitent dans le présent. Et là, si on voit l'émotion présente avec plus de légèreté, en sachant qu'elle a un début, une durée, une fin, les émotions changent. Combien d'émotions est-ce qu'on a sur une journée? Elles changent. Et même quelqu'un, par exemple, qui est pris par des émotions difficiles très régulièrement, quotidiennement, il y a des moments où cette émotion-là n'est pas là. Il y a des trous, il y a des espaces. Et c'est quand on se raconte qui on est qu'on enlève ces trous et qu'on dit, moi, ça fait des années que je vis ça. Mais en fait, ça, c'est une grosse solidification. C'est solidifié par la pensée. Mais ce n'est pas vrai que ça fait des années qu'on vit ça. Sur des années, on a vécu beaucoup de ça, ok. Mais il y a eu aussi ça, 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 ça et plein d'autres choses. Ça change, ça bouge, c'est fluide. Et quelque part, la pensée n'est pas à même d'avoir cette rapidité, cette souplesse pour saisir la complexité de tout ce qui nous traverse. Et du coup, on raconte une histoire de nous-mêmes qui est Je suis ça, ou je suis ça, ou je suis ça, je vis ça, ou je vis ça, ou je vis ça. Et ça, c'est l'inverse de la permanence, c'est la solidification. C'est comme si c'était crac, c'est ça. Ou pareil, je suis comme ça. Je suis généreux. Tout le temps. Vraiment tout le temps. Hein? On peut avoir une tendance, mais il y a des moments où hop, ça se referme un petit peu, et puis il y a des moments où ça se réouvre. Et pour tout, en fait. On n'est pas tout le temps, toujours quelque chose. Et pareil, je suis. Vous voyez, ça, quand j'essaie de prendre des exemples, parce que ça se décline dans tous les endroits de notre vie, je suis un papa tout le temps. Ben non. Ça, c'est une identité. Je n'ai pas besoin d'être tout le temps un papa. Ou je suis un enseignant de méditation, ou je suis tout ce qui vient derrière je suis, en fait. Tout ce qui vient derrière je ne le suis pas tout le temps, en fait. Et donc, je le suis au moment où je le suis, c'est ça la permanence. Donc, quand je suis avec mon fils, quand je suis dans mon rôle de père, à ce moment-là, je suis un papa. Et puis, en dehors, je n'ai pas besoin d'être un papa. Assis dans un arbre, assis dans un arbre, assis dans une forêt à observer un arbre, je n'ai pas besoin de cette identité de papa. J'ai pas besoin de cette identité de enseignant de méditation, j'ai pas besoin de cette identité de compagnon, j'ai pas aucune de mes identités en fait. Donc elles ne sont pas permanentes, ces identités. Elles sont utiles dans un certain moment. Et donc de voir leur impermanence permet d'en jouir pleinement, d'être efficace dedans, de faire ce qu'il faut, de les accepter et puis de passer à autre chose. Et c'est cette fluidité en fait qu'on acquiert. De voir que de toute façon, tout ça, ça bouge, ça change, ça bouge, ça change. Et en méditation, on le voit parce que tout passe, une pensée émerge, une pensée s'en va, une sensation émerge, une sensation s'en va. Il n'y a rien qui dure. On fait l'expérience de ça. Et donc, dans le RAIN, je le disais, ça va être très utile parce que ça va vraiment nous permettre de changer l'intensité avec laquelle on se dit, on se raconte une émotion qu'on est en train de vivre. Et l'intensité de la manière dont on la vit, ça permet de nouveau de rajouter à cette distance qu'on a vue et dont on a fait l'expérience avec reconnaître, accepter. En fait, ça permet d'accepter beaucoup. On peut l'accepter, la laisser. Elle est là dans le moment et on sait qu'elle ne va pas durer. Et ça peut passer d'un savoir assez théorique qu'on a déjà tous et qui est assez facile à acquérir, mais à savoir vraiment incarné, où on n'a plus besoin de se le répéter même. On vit les choses en sachant qu'elles ne vont pas durer. Alors là, il y a une manière de vivre qui est beaucoup plus fluide en fait, où on peut plus accepter les changements. C'est un thème immense, immense, qui a énormément d'applications. Comme je vous le disais, ça fait quelques années vraiment que je l'ai bien intégré dans ma pratique. Et d'ailleurs, si c'est un thème qui vous parle, vous le verrez dans vos méditations et tout ça, c'est un thème que on va prendre avec. On fait des retraites tous les débuts d'année, janvier, février, mars, on fait une fois par mois des retraites d'un jour. En fait, on les appelle la retraite d'un jour, une journée complète sur un thème. Et là, les 3 journées, journée janvier, février et mars, seront sur voir la permanence, histoire de bien ancrer ça dans le quotidien. Parce que c'est vraiment un grand lâcher prise dont on peut faire l'expérience quand on intègre bien ce thème. Et donc pour finir, donc il y a beaucoup en fait, je vois sur 20 minutes de présentation, ça fait beaucoup beaucoup de matière, et puis nos méditations, sur 20 minutes de méditation, il y a aussi beaucoup de matière dans la guidance et tout ça. Mais sachez que tous les thèmes sont des pistes d'exploration qui peuvent être dépliées après pendant très longtemps dans votre vie. Donc pour en méditation, par exemple, la permanence, parfois, elle est aussi mentionnée comme l'infiabilité. C'est-à-dire que quelque chose n'est pas fiable dans le sens où on ne peut pas compter sur une chose pour nous amener le bonheur ultime qu'on cherche. C'est-à-dire que des choses, je me lance dans un autre discours. Ok. Donc je vais essayer de le faire simple. Prenons le juste en méditation. En méditation, en fait, quand on médite et qu'une chose se présente à notre esprit, si elle séduit notre esprit ou si elle contient, si elle a un contenu émotionnel, en fait, elle va nous amener ailleurs que là où on voudrait être, parce que nous, on voudrait être dans cette sensation de présence. De savoir que rien de ce qui se présente à notre esprit ne va pouvoir satisfaire ce qu'on cherche vraiment. Parce que ce qu'on cherche vraiment dans la méditation, c'est cette sensation, en fait, d'espace ouvert et non affecté par tout ce qui se produit à l'intérieur. On écouterait le discours si vous voulez. Cet espace ouvert, avec cette sensation de. Nisargadatta Maharaj, un saint indien, disait, c'est un peu comme l'air. Vous pouvez jeter du pétrole ou de la peinture en l'air, il n'est pas sali. Et on peut avoir cette sensation de la conscience, en fait. Et cette conscience qu'on peut goûter. Hein, certains déjà en parlaient un peu, là. Ces moments de conscience qu'on peut goûter, où on a la sensation d'être en contact avec un espace immense de nous-mêmes qui est immuable, qui était déjà le même exactement quand on était petit et qui n'est pas affecté par le temps, qui est inchangeant. En fait, quand on a la sensation de ça, on a l'impression alors que tout ce qui va émerger dans cet espace ne peut pas nous satisfaire. La satisfaction la plus ultime va être cet espace vide. Et à ce moment-là, c'est ça, donc, cette non-fiabilité de tout ce qui se présente. On va croire, pour prendre un exemple, si on a un conflit avec quelqu'un, par exemple, un voisin, le conflit va venir dans notre esprit. Si on a la croyance qu'on trouvera vraiment le bonheur qu'on cherche une fois que le conflit est solutionné, à ce moment-là, dès que l'image du conflit va venir dans notre esprit, alors, notre attention va se faire prendre et on va être parti. Et là, on est là en méditation, mais en fait, on n'est pas du tout là. On est avec notre voisin en train de dire il n'aurait pas dû faire ça, et j'aurais dû faire comme ça, et la prochaine fois, je vais faire comme ci et comme ça. Là, on est peut-être comme ça, les poings serrés, les images entendues, et puis on se retrouve après 10 minutes à faire ensuite, je me suis fait avoir, respire, reviens. Ça, c'est parce que quand on a la compréhension que ce qu'on cherche en méditation, ce n'est pas la solution d'un problème, ce n'est pas d'arriver à autre chose, ce n'est pas un succès, ce n'est pas une réussite, parce que tout ça ne nous amènera pas le type de satisfaction qu'on cherche dans nos pratiques de méditation. Alors, il y a moins de saisie. Alors, les choses peuvent venir et elles ne nous emportent pas. Elles n'ont plus leur pouvoir de nous séduire ou de nous faire croire qu'il faut solutionner cette histoire, qu'il faut absolument réfléchir à ce projet, parce que comme ça, on va bien évoluer et peut-être notre identité, ceci, ou enfin ça va être bien, ça va être bon pour nous. On a un autre intérêt, on a un autre but dans notre pratique. De faire l'expérience et de toucher un espace très ouvert. Ça, c'était donc ces dernières quelques minutes de ce que je viens de parler. C'est une espèce d'ouverture, en fait, de ce que l'impermanence peut impliquer, si on y réfléchit bien, à plus long terme. Mais vous pouvez complètement laisser cette partie-là de côté et rester avec les compréhensions qu'on a explorées au début. Ok, donc là je vous propose qu'on fasse quelques minutes de pause et puis
une
après.
Question.
Oui.
Est-ce que, sans être trop loin, est-ce que je peux me dire, peut-être